Vous écoutez bien RFI, minuit à Paris, 3h à Bakou, l'heure d'un nouveau journal.
Mathis Limano.
Au sommaire, accord trouvé à la COP29 à Bakou. Après 2 semaines d'âpres négociations, les pays sont tombés d'accord sur un montant 300 milliards de dollars pour les pays en développement afin de faire face à l'urgence climatique. Dès le début de ce journal, on va à Bakou retrouver Jeanne Richard en direct. À suivre, Kiev réclame de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne. Demande formulée aux alliés occidentaux après le tir inédit d'un missile russe balistique sur son sol. Et puis, la visite de Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense aux îles Fidji dans ce journal. Voilà, c'est officiel. Après 2 semaines de négociations difficiles, les pays ont approuvé un accord à la COP29, 300 milliards de dollars à destination des pays en développement. Jeanne Richard, vous êtes en direct depuis Bakou. Vient donc de s'achever la conférence sur le climat avec enfin un montant.
Oui, je suis devant la plénière où sont réunis les délégués qui viennent d'adopter donc le nouvel objectif de finance climatique avec une salve d'applaudissements, plutôt pour dire leur soulagement que leur joie. En effet, les pays en développement ont réussi à arracher un financement d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. C'est l'ajout au dernier moment de ce mot « au moins » qui change la donne. Le montant n'est plus une somme maximale à atteindre, mais un plancher qui pourrait être dépassé jusque pourquoi pas atteindre les fameux 1300 milliards de dollars réclamés initialement. Ce qui compte, c'est que les pays développés, pollueurs, responsables historiques du changement climatique, seront ceux qui devront payer en premier. La Chine et les autres émergents pourront participer de manière volontaire, sans pression particulière. L'argent pourra venir de multiples sources, publiques, privées ou banques de développement. C'était un point qui coinçait car les pays du Sud tenaient à éviter des prêts qui risquent d'alourdir leurs dettes. Alors que ce soit sur le montant ou sur la part trop grande de la finance privée, c'est une déception, me confie un négociateur africain. Petite consolation, les pays du Sud ont réussi à obtenir une clause pour réviser cet accord d'ici 5 ans au lieu de 10 ans. Ils espèrent que d'ici là, le monde verra mieux l'intérêt de payer pour éviter des catastrophes climatiques encore pires qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Jeanne Richard, en direct de la COP29 sur le climat à Bakou. Pas de répit dans la guerre entre Israël et le Hezbollah. Plus de 50 personnes tuées au Liban ce samedi dans des frappes de l'État hébreu qui ont commencé avant l'aube, notamment à Beyrouth, visées en son cœur, ainsi que sa banlieue sud, l'est et le sud du pays, pas non plus épargnés. Des frappes qui n'ont pas été commentées par l'armée israélienne pour l'instant. Sur le terrain des négociations, Washington a réitéré l'engagement américain en faveur d'une solution diplomatique, tandis qu'Israël a réaffirmé sa détermination à agir contre le Hezbollah. Et sur le front de la guerre à Gaza, le Hamas annonce la mort d'une otage dans le nord de l'enclave, enlevée par la branche armée du mouvement le 7 octobre. Cette femme est morte dans une zone d'opération de l'armée israélienne, indique le Hamas. Son identité n'a pas été révélée, alors que 97 otages sont encore détenus dans la bande de Gaza. L'effacement des dettes pour les Russes qui s'engagent pour combattre en Ukraine. Cette loi, signée ce samedi par Vladimir Poutine, alors que la Russie est en recherche permanente de volontaires, elle permet d'effacer cette loi jusqu'à 92 000 euros de dettes en échange d'un service d'un an dans l'armée. La nuit dernière, et dans ce contexte de guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN a rencontré le président américain élu. Mark Rutte et Donald Trump ont discuté des problèmes de sécurité mondiale que rencontre l'Alliance Atlantique. Parallèlement, Kiev a lancé un nouvel appel à l'aide à ses alliés occidentaux afin d'avoir les capacités de se défendre face aux nouveaux missiles utilisés par la Russie. Oriane Verdier.
Face aux nouveaux missiles russes, Kiev a aujourd'hui besoin de systèmes de défense anti-aérien de dernière génération. Le ministre ukrainien de la Défense serait déjà en discussion avec les alliés occidentaux, a affirmé le président ukrainien vendredi soir. La Russie dit avoir frappé jeudi la ville de Dnipro en Ukraine avec un nouveau missile balistique hypersonique. L'Ukraine est équipée de systèmes anti-aériens, notamment américains et franco-italiens, mais elle n'a pas suffisamment d'équipement pour protéger toutes les villes et surtout Moscou présente le missile Oreshnik comme impossible à intercepter. Le président russe a ordonné de produire cette arme en série en promettant de nouveaux tirs après ce qui était présenté comme un premier essai en réponse à l'utilisation par Kiev de missiles occidentaux sur le sol russe. Jeudi, Vladimir Poutine a fait porter la responsabilité de cette récente escalade sur les occidentaux qui ont donné le feu vert à l'utilisation de leur armement sur le sol russe. L'Ukraine et l'OTAN doivent se retrouver dans 3 jours à Bruxelles pour évoquer la situation pression. Kiev dit attendre des décisions concrètes de ses alliés.
Oriane Verdier, Moscou qui compte désormais sur 10 000 soldats nord-coréens prêts à combattre dans la région russe de Koursk, selon les renseignements américains. La région prise par l'Ukraine cet été, mais qui a perdu 40% du territoire conquis, selon une source militaire ukrainienne. Kiev qui peut compter sur le soutien des Occidentaux, qui ne se fixe pas de ligne rouge. Déclaration sur la BBC de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, interrogé sur la possibilité d'envoyer des troupes françaises au sol. Inquiétude au sujet des nouvelles centrifugeuses avancées annoncées par Téhéran. Centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium. Ces nouvelles installations s'inscrivent dans le programme nucléaire uranien et elles inquiètent Washington, Paris, Londres et Berlin. Cette annonce est en réponse à une résolution adoptée jeudi sur le nucléaire iranien. Résolution symbolique mais très critique qui rappelle Téhéran à ses obligations légales. L'Iran a fortement restreint depuis 2021 sa coopération avec l'agence du nucléaire et son programme ne cesse de monter en puissance, même si le pays nie vouloir se douter de la bombe. Une information surveillée de près par les États-Unis, donc. Son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a rencontré ce samedi le Premier ministre des îles Fidji, pays situé à l'est de l'Australie, dans le Pacifique Sud. Le chef du Pentagone achève ainsi sa tournée dans la région, marquée également par des visites aux Philippines et au Laos. Et il entend bien intensifier l'engagement militaire des États-Unis dans cette région du globe. Les explications de Rebecca Arondel.
L'objectif du chef du Pentagone était de signer un accord bilatéral sur le statut des forces avec les îles Fidji. Ce texte prévoit de renforcer la présence militaire américaine dans ce pays du Pacifique en permettant par exemple des exercices militaires communs. L'installation d'une base militaire américaine permanente n'est pas encore à l'ordre du jour, selon Lloyd Austin, mais cette négociation traduit bien la volonté des États-Unis de récupérer peu à peu de l'influence dans ce petit pays, de plus en plus convoité par la Chine. Fin août, cela s'était même traduit par des accords entre Xi Jinping et le gouvernement des îles Fidji sur l'aide militaire, le commerce et même l'enseignement du chinois dans les écoles. Alors, le chef du gouvernement des îles Fidji, traditionnellement pro-occidental, jouerait-il sur les deux tableaux? En tout cas, il semble se réjouir de ce rapprochement avec les États-Unis. Orné d'une cravate aux couleurs du drapeau américain, il a qualifié cette rencontre avec Lloyd Austin d'historique. C'est la première fois qu'un secrétaire à la défense des États-Unis se rend dans ce pays.
Rebecca Arondel, top départ pour un marathon électoral en Roumanie. À commencer par le premier tour de la présidentielle, ce dimanche, 14 candidats, mais un duel se dessine déjà pour le second tour. Le premier ministre Marcel Ciolacu, 56 ans, président du Parti social-démocrate, principale formation du pays, et le populiste Georges Simion, 38 ans, chef de l'extrême droite roumaine. Et ce, avant le second tour, dans deux semaines, eh bien les Roumains, doivent aussi élire leurs députés dimanche prochain lors d'un unique round. Cinéma, à présent, avec un documentaire tourné par un duo franco-américain de réalisateurs. Dans Direct Action, Ben Russell et Guillaume Caillot filment le quotidien à Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France. C'est là qu'une ZAD, une zone à défendre, avait vu le jour dans le périmètre de l'ancien projet d'aéroport, projet abandonné par l'État français en 2018 suite à une longue guerre d'usure avec les militants écologiques et des citoyens locaux. Elisabeth Lequéré.
De Notre-Dame-des-Landes, on a gardé l'image des affrontements violents entre police et manifestants. Mais c'est à découvrir un tout autre paysage que nous invite Direct Action, parce qu'on y partage le quotidien de ceux qui s'installèrent sur les lieux, une fois le projet d'aéroport abandonné. Pendant plus de 2 ans, les réalisateurs ont vécu parmi eux. Leur documentaire témoigne de cette longue immersion, plus de 3 heures, durant lesquelles se succèdent de longs plans séquences, comme autant de tableaux, où se dévoile le travail du bois, la forge, le maraîchage, l'atelier de sérigraphie, les repas en commun. S'y dessine une mini-communauté autogérée et visant presque à l'autarcie par son réseau d'activités artisanales et agricoles. Car c'est bien de l'invention d'une communauté solidaire et égalitaire qu'il est ici question, comme si l'action directe, au fond, se trouvait moins dans l'intensité des combats que dans cette vie discrète qui rend palpables les contours d'un monde possible et désirable.
Elisabeth Lequéré du service culture, vous écoutez bien RFI, les minuit 10 à Paris, 23h10 en temps universel.